Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est encore et toujours évidemment ce remaniement, ces nouveaux ministres qui sont arrivés, un gouvernement plutôt sarkozyste. C'est la une de plusieurs de vos journaux ce matin. On en parle avec Pierre Jacquemin. Bonjour, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonjour, vous êtes coordonnateur du livre « Dessine-moi un pangolin » aux éditions du Diable Vauvert qui va paraître en septembre. Pierre Jouvet, vous venez de le recevoir, faites voir. Ouais. Ah, très joli.
Il est beau, hein.
Très beau, rose, j'aurais fait vert moi, mais non, très bien. Pierre Jouvet, porte-parole du Parti Socialiste et maire de Saint-Vallier dans la Drôme, bonjour.
Bonjour.
Laurence Taillade, présidente du Parti Républicain Solidariste, vous avez publié Être une femme en 2020 aux éditions Michelon et vous êtes candidate au sénatorial dans le Cantal, et vous êtes dans le Cantal en ce moment même. Et Judith Weintraub, bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Donc oui,
bonjour Valérie.
Ce nouveau gouvernement, les premiers pas, les transmissions, les passations de pouvoir, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est la fin d'En Marche? Est-ce que vous voyez, comme beaucoup, l'ombre de Nicolas Sarkozy, la une du Parisien où on voit les deux hommes face à face qui sont en train de discuter? Et puis on pourra peut-être dire quelques mots quand même du coronavirus. Seconde vague, sommes-nous assez prudents? Des alertes nous arrivent d'un petit peu partout. Il faut être vigilant. Commençons par un tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Pierre Jacquemin, on commence avec vous.
Oui, moi c'est plutôt, je ne sais pas très bien si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, parce que c'est le rapport qui vient d'être remis par le Haut Conseil pour le Climat, et on sait à quel point il y a une urgence climatique. D'ailleurs, ça fait aussi écho, enfin les conclusions du rapport font aussi écho à une pétition qui avait été lancée en ligne par différentes ONG, je pense à Greenpeace, l'Oxfam ou la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. Et ce rapport dit, grosso modo, je le cite, « Les actions climatiques de la France ne sont pas à la hauteur des enjeux ni des objectifs qu'elle s'est donnés ». Il parle, ce rapport, de politique insuffisante et marginale sur la question climatique. Et que je pense que c'est aussi c'est quand même une instance indépendante qui a été nommée et mise en place par le président de la République en 2018, et que c'est pas une petite affaire, ce rapport. Je pense que c'est aussi un coup de pression, parce que je pense que les conclusions de ce rapport sont totalement indépendantes et c'est vrai, critique, mais critique à juste titre. C'est-à-dire qu'on entend depuis le début du quinquennat beaucoup de paroles de la part d'Emmanuel Macron sur la question écologique. Mais en réalité, les résultats, ils ne sont pas là. Et puis, même la politique menée va à contre-sens, va à rebours même des politiques écologiques telles qu'elles devraient être menées. Il faut se rappeler de la parole qui avait été celle de Nicolas Hulot lorsqu'il a démissionné du gouvernement. Il avait dit on ne peut pas conduire des politiques écologiques avec la ligne politique économique de ce gouvernement. Et je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de grandes remises en cause, même dans la nomination de ce nouveau gouvernement, des politiques économiques d'Emmanuel Macron.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça suffit de culpabiliser la France?
Mais c'est pas une culpabilisation.
On a l'impression qu'on est le pays le plus pollueur du monde, ce qui est loin d'être le cas.
Ce qui n'est pas vrai, effectivement. Mais vous avez raison, Valérie. Je pense qu'il n'y a pas de culpabilisation. J'entends qu'on dirait que justement, ce serait aux Français c'est les Français les plus coupables justement de ce dérèglement climatique. Je pense. Que les Français disent le contraire, disent que nous, ils veulent plus de politique écologique. Ça s'est vu notamment dans les élections municipales où le vote écologique a pris un échelon supplémentaire. Et puis cette pétition dont je parlais, qui est historique, plus de 2 millions de pétitionnaires qui en appellent à ce gouvernement, qui critiquent le gouvernement, qui disent que grosso modo, et d'ailleurs ils portent plainte contre le gouvernement puisqu'il y a une action qui est engagée contre le gouvernement pour une action climatique. Donc je ne crois pas qu'il y ait une culpabilisation, au contraire, il y a une volonté de la part des Français de mener des politiques écologiques beaucoup plus importantes, beaucoup plus radicales et peut-être même plus contraignantes. Ce pourquoi d'ailleurs Emmanuel Macron ne s'est pas engagé sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les seules propositions qu'il n'a pas retenues, c'est les propositions les plus contraignantes.
Un mot, quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Pierre?
Oui, moi je suis d'accord. Ouais. Je trouve que le gouvernement français ne s'engage pas dans une voie de lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, quand il ferme Fessenheim, c'est un contresens historique. Moi, j'aimerais qu'on ait une politique nucléaire assumée, beaucoup plus d'investissements dans les énergies non peu lourdes que sont, par exemple, la pile à combustible. Et ça, je ne le vois pas. Et les gros enjeux sont là.
Mmh. Allez, on passe à Pierre Jouvet avec un anniversaire aujourd'hui que vous vouliez
rappeler. Oui, ça va
nous
faire prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on se disait précédemment. Et je partage l'analyse de Pierre et ce qu'on va se dire ensuite avec le remaniement gouvernemental. Aujourd'hui, c'est le 77e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Et moi, je voulais le redire ici parce que c'est un exemple de courage, un exemple d'abnégation et d'engagement. Et je relisais ce matin sur les mémoires de Jean Moulin qui avaient été faites ce passage absolument extraordinaire de courage d'un homme qui a été torturé pendant plusieurs jours, qui a été torturé jusqu'à mourir, hein, puisqu'il est mort dans le train le conduisant au camp de concentration à proximité de Metz. Et la dernière fois qu'il a vu son tortionnaire, Klaus Barbie lui a dit « Je vous laisse encore deux chances » et il lui a tendu deux papiers. Il lui a dit « Donnez-moi des noms ». Et sur le premier papier, Jean Moulin a écrit un nom, il a écrit le sien, Jean Moulin. Et Klaus Barbie l'a fait retorturer pendant plusieurs heures et lui a redonné un papier en lui disant « Cette fois, c'est votre dernière chance, redonnez-moi un nom ». Et Jean Moulin, qui était un grand dessinateur sur ses heures de temps libre, a caricaturé Klaus Barbie et a écrit « Jamais je ne vous parlerai de mes amis ». Et je pense que dans ces moments où parfois la futilité politique des choses prend le pas sur le fond et le fondement de l'engagement même, je voulais le rappeler à votre antenne parce que c'est un homme absolument remarquable dont l'histoire n'est pas suffisamment rappelée parfois.
Oui, vous avez raison de le rappeler. On va passer à Laurence Taillade. Laurence ?
Oui, Valérie. Alors moi, j'avais un coup de cœur aujourd'hui pour la revalorisation des retraites agricoles qui est passée totalement inaperçue, qui a été votée la semaine dernière au Sénat. C'est une très très bonne nouvelle puisque les retraites vont être revalorisées à hauteur de 85% du SMIC. Présente quand même une augmentation en monnaie trébuchante de 120 euros de plus par mois. Il faut dire quand même qu'on a eu 3 ans de parcours parlementaire avant d'arriver à cette adoption de projet de loi qui a fait l'unanimité, qui était portée par André Chassaigne, donc on peut s'en réjouir. Petit bémol, c'est que cette revalorisation sera écrêtée dans le cas où certains agriculteurs cumulent des emplois, ce qui est assez fréquent dans le monde agricole, parce qu'on vit très difficilement, je le rappelle, hein, dans le monde agricole de son métier premier. On a quand même un tiers des agriculteurs qui sont à moins de 350 euros de revenus par mois. Quand on sait que c'est un métier qui demande de travailler 7 jours sur 7, 365 jours par an, Et ben aujourd'hui, on peut considérer que c'est une vraie victoire. Maintenant, il faut espérer aussi que cette revalorisation, eh bien, elle puisse porter ses fruits au niveau des conjoints collaborateurs, des artisans, des indépendants, des travailleurs précaires, vers un système universel qui soit plus juste, plus solidaire, et puis qui puisse prendre en compte aussi des critères de pénibilité, en tout cas qui soit assez loin de ce que nous proposait le système Macron. Et j'appelle de mes voeux justement cette revalorisation des petites retraite qui pourrait être calquée sur celle des agriculteurs.
Bon, bah écoutez, espérons que vous serez entendu. Judith Weintraub, on passe avec vous, on amorce le sujet gouvernemental et le remaniement. Donc vous vouliez faire une remarque à propos de ceux qui viennent d'y entrer.
Oui, absolument. Tout le monde fait des comptes contre les membres du gouvernement issus de la diversité, contre les femmes. Et moi, j'ai fait un autre compte. C'est celui des membres de gouvernement qui sont issus de milieux modestes, ouvriers, paysans ou tout petits salariés. Et franchement, de mémoire, j'avais vu autant. On en a 32, Jean Castex, fils d'Astit compris, et sur les 32, j'en ai compté 12 qui viennent de milieux extrêmement modestes. Alors dans les entrants remarquables, il y a évidemment Dupond-Moretti, dont la mère était femme de ménage, il y a Elisabeth Moreno, capverdienne, dont les parents étaient illettrés, il y a Nadia Haye, qui est née à Trappes, mais en fait, il y a aussi Brigitte Bourguignon, dont le père était chaudronnier, Jean-Baptiste Gébari, alors ça c'est pas un entrant, Sébastien Lecornu, Le Drian, qui n'en a jamais fait état, mais son père travaillait dans une usine de pièces détachées automobiles et sa mère était couturière, et ben je trouve ça très très bien, c'est une très bonne nouvelle.
Oui, moi j'étais un peu agacée par ce besoin de le rappeler. Que vous le rappeliez, c'est une chose, mais qu'on soit obligé de le rappeler lors d'une passation ou de le dire parce que j'y vois, moi, une certaine, quand même, comment dire, pas flagornerie, on va dire, vis-à-vis du peuple, du genre, moi aussi, je viens du peuple. Je trouve que le revendiquer n'est pas très élégant.
Non, moi, je me souviens d'une époque pas si vieille où on le cachait plutôt. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, Pierre-Jacques.
Oui, je ne sais pas.
C'est logique que les ministres du président des riches soient obligés de justifier leur appartenance familiale au peuple. C'est pour ça, c'est une justification. Le sujet n'est pas tellement d'où ils viennent. Moi, tant mieux qu'on ait la promotion sociale et républicaine dans ce pays qui fonctionne encore. L'essentiel, c'est que maintenant, quand ils vont exercer leurs responsabilités, ils s'en rappellent vraiment d'où ils viennent et qu'ils mènent une politique qui soit tournée justement vers ceux qui ont été leurs parents, leurs grands-parents et qui sont leur origine sociale et familiale.
Oui, mais qui juge? Qui juge? Ce sont eux hein, qui jugent si la politique à laquelle ils participent est bénéfique pour les gens qui sont issus des milieux dont ils viennent aussi. Laissez-leur leur... C'est pas une assignation à résidence, hein, mais laissez-leur leur liberté. Ouais.
Enfin, oui, ils laissent la liberté, mais qui s'en souviennent, c'est ce que dit Pierre Jouvet, c'est-à-dire
mais
que
je pense qu'on
c'est
a pas de
parce qu'on
à
vient.
Leur
non, mais c'est pas parce que non, mais venir d'un milieu populaire n'est pas un blanc-seing pour une
politique sociale. De la même façon que ne pas blanc tout court n'est pas un blanc-seing pour.
Non, mais de la même manière que se revendiquer ou expliquer, de la même manière que se revendiquer ou expliquer qu'on a un parcours ou qu'on vient de la gauche quand on est dans un gouvernement qui mène des politiques de droite. C'est pas parce qu'on vient de la gauche qu'on est là pour mener des politiques de gauche. Et d'ailleurs, tous les ministres qui viennent de la gauche, que ce soit Dussopt, que ce soit Le Drian, assument le fait de mener une politique qui n'est aujourd'hui clairement pas à gauche. Et le signal qui a été envoyé, on va en reparler, n'est clairement pas en cap à gauche, cap aller sur l'écologie, cap sur le social. Et par ailleurs, très bien qu'ils soient issus des catégories sociales populaires, c'est eux aussi qui vont être en responsabilité s'ils font leur réforme sur la retraite, d'aller expliquer à leur mère, à leur père, qui vont devoir travailler jusqu'à 65, 70 ans quand on est justement précisément femme de ménage ou caissière de supermarché. C'est eux qui vont devoir dire à leurs parents qui sont responsables d'une politique où, oui, nos grands-parents vont devoir travailler peut-être pour retrouver un mieux vivre, pour pouvoir avoir de l'argent à la fin du mois, pour pouvoir finir de payer son loyer. Et c'est ça qu'ils vont devoir assumer. Et ça, je ne suis pas sûr que leurs origines sociales soient tout à fait compatibles avec justement la politique qu'ils souhaitent mener ou qu'ils souhaitent réengager à travers ce énième virage, comme peuvent le dire un certain nombre de personnalités de la majorité.
Oui, une auditrice nous dit « L'origine sociale n'est pas gage de compétence ni d'honnêteté ». Je comprends ce que vous voulez dire, Judith, dans votre propos, qui est assez subtil. Mais c'est vrai que dire « je viens du peuple, donc je suis un gars bien », c'est pas forcément vrai.
Non, de la même façon,
alors,
Laurence
Taillade, oui, non, mais c'est ce que je vous ai dit, que votre propos était plus subtil que ce qu'on en pense. Laurence Taillade.
Oui, je pense qu'effectivement, le propos de Judith est assez juste dans le sens où c'est important de pouvoir noter que l'ascenseur social n'est pas en panne sur ces aspects-là. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, on a tendance à vouloir appliquer une espèce de politique de quotas pour tout. Le fait de compter les minorités visibles, de compter le nombre de femmes, de compter... Alors, c'est important, effectivement, que les femmes puissent émerger, qu'elles puissent sauter, passer ce plafond de verre important, et vous le savez à quel point j'y suis attachée, notamment sur les fonctions électives et sur les fonctions à responsabilité, notamment dans les grands groupes et dans les administrations. Mais pour autant, je trouve que on a tendance à mettre des quotas pour tout, partout, à donner un sentiment de notre société qui est en train d'évoluer vers une société à l'américaine où on va attribuer des places en fonction de la couleur de peau et de la religion. Et ça me dérange un peu plus. J'aimerais mieux que l'on parle d'hommes politiques, non pas en les définissant comme des hommes blancs, comme l'a fait Madame Bonneau, mais en les définissant par leurs caractéristiques propres, qui sont des caractéristiques humaines, leur intelligence, leurs valeurs, les idées qu'ils ont pu défendre. Et là, je pense qu'on sera un peu plus juste aussi sur la façon de juger nos politiques, parce que finalement, c'est sur la longueur de leurs engagements et sur la rigueur avec laquelle ils les ont respectés qu'on devrait les juger. Et en l'occurrence, on reparlera ensuite du gouvernement, mais il y a des gens qui ont changé de chemise à chaque fois qu'ils en ont eu l'opportunité pour pouvoir occuper des postes. Et c'est ça, à mon avis, le fond de la question. C'est pas tellement la question de l'origine, quelle qu'elle soit.
Alors,
Judith, vous aurez la parole au retour de cette petite pause. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour parler donc de ce nouveau gouvernement, les premiers pas de ce nouveau gouvernement, les tout premiers pas. L'Assemblée nationale, en ce moment, le Premier ministre est à l'Assemblée nationale. Il devra attendre pour son discours de politique générale. Judith Weintraub, vous vouliez répondre
à ce que disait Laurence Taillade. On ne choisit pas son sexe ni sa couleur de peau. En revanche, son métier, on le choisit. Et on choisit largement sa place dans la vie, ou en tout cas la place que ces ministres ont acquise, c'est grâce à leur mérite, parce qu'ils ont bossé à l'école, parce qu'ils ont voulu, parce qu'ils ont aimé leur métier. Et c'est à ça que je voulais rendre hommage.
Mais alors, si on va dans ce sens-là, parce que juste, je voudrais rajouter une chose. Effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de ministres qui viennent d'origine populaire, tant mieux. Il y a aussi beaucoup de ministres qui ont des postes clés dans ce gouvernement, à commencer par le Premier ministre, qui est lui-même un énarque. Il y a quand même beaucoup de hauts fonctionnaires, et ça révèle aussi une manière de faire de la politique, parce qu'on sait très bien que la formation de cette technostructure, de cette technocratie, a aussi dépolitisé aussi la machine gouvernementale, et que finalement, ceux qui ont été choisis sont aussi là pour couper les budgets, pour couper les têtes, et c'est aussi, ça révèle aussi une logique politique. Donc, on a beau venir de quartiers populaires, on a beau venir de métiers de parents qui avaient des métiers populaires.
Auquel je citais n'était dark à part Jean Castex, effectivement.
Oui, c'est le premier d'entre eux.
Oui, mais d'accord, vous pouvez toujours tout trouver que c'est trop, mais il y en a rarement eu aussi.
Je dis juste que c'est quand même, on sait que c'est aussi une famille. Enfin, Madame Wargon était dans la promo d'Emmanuel Macron, qui lui-même nomme un énarque à la tête de Matignon, qui était déjà précédé par un énarque. Je n'ai rien contre l'énarchie, mais c'est aussi une manière de faire de la politique qui est quand même très vieux monde.
Mais justement, il y en a moins qu'avant, c'est ce que dit Judith Weintraub, il y en a moins qu'avant.
Bien sûr, il y a beaucoup plus de gens qui se sont faits eux-mêmes dans des conditions très difficiles. Et c'est marrant, comme c'est dans un gouvernement qui ne vous plaît pas, vous ne saluez pas cette méritocratie. Ben moi, je suis méritocrate.
Judith, je ne sais pas ce que c'est la méritocratie. Si un jour, j'ai un tout petit peu de pouvoir auprès de l'Académie française, je pense que c'est un mot qu'il faut bannir du vocabulaire français. Je ne sais pas ce que c'est que le mérite. Je voudrais bien savoir ce que c'est.
C'est clair. Non, le mérite, c'est qu'on a, on a travaillé, comme le disait Judith Weintraub, pour arriver dans la vie en partant de rien.
Mais Valérie, vous savez très bien que quand on a des conditions, même si on vient d'un milieu populaire, il y a toujours des contextes, des déterminismes qui permettent aux uns et aux autres de travailler mieux que d'autres, et que donc, du coup, rien n'a à voir avec une volonté personnelle ou une capacité personnelle. Ça n'a rien à voir. C'est aussi à voir avec l'entourage qui évolue avec vous autour de vous.
Non. Quand on est une mère, femme de ménage et un père ouvrier, vous n'êtes pas dans ces conditions-là. On a Rafik Smati qui nous a raconté, lui aussi, qui venait d'un milieu extrêmement populaire. Il y est arrivé tout seul, en travaillant et en ayant foi.
Mais on n'y arrive jamais tout seul. Valérie, je viens d'un milieu populaire. Je ne considère pas que je dois tout à moi-même et à ma propre volonté. Je considère que j'ai été entouré par des gens. J'ai croisé des gens à l'école. J'ai eu possiblement des gens qui n'étaient pas de mes milieux, qui étaient dans mon école. L'école républicaine a aussi fait émerger des réseaux sociaux, des réseaux d'individus qui n'étaient pas ceux de ma famille, qui ont participé à ça. Donc, je ne dois pas ça à moi-même. Je dois ça à un collectif de gens que j'ai croisés. Ils ne sont pas par le hasard, par le déterminisme. Donc, ce n'est pas de l'ordre de la capacité individuelle, c'est de l'ordre de la société, des déterminismes sociaux. Le mérite n'existe pas.
De la capacité individuelle, c'est parce que vous avez eu la capacité.
Je ne sais pas ce que c'est la capacité individuelle.
Vous en pensez quoi, Pierre Jouvet?
Débat
intéressant.
Philosophique, oui.
C'est un débat intéressant. Je pense que c'est d'ailleurs un débat principalement de fond sur le fait que depuis maintenant plusieurs années, moi, j'explique avec force pourquoi j'ai une différence idéologique profonde avec Emmanuel Macron. Parce que je crois exactement ce que vient de dire Pierre à l'instant. Mais exactement. Je pense qu'il n'y a pas de déterminisme individuel qui façonne le citoyen. C'est dans un mécanisme collectif qu'on arrive à avoir la chance pour certains, et malheureusement pour trop peu, de pouvoir émerger quand on vient d'un milieu populaire, de pouvoir sortir la tête de l'eau pour beaucoup, mais c'est extrêmement faible. Et en fait, c'est la différence entre l'individu et le collectif. Et moi, je suis profondément attaché à cette valeur collective dans le pays, au fait qu'on ait des services publics qui sont puissants, qui nous permettent de nous émanciper, qu'on ait... Vous savez, quand on a, par exemple, le débat récurrent sur les footballeurs qui disent « Mais moi, je suis footballeur, je m'en suis sorti tout seul, je dois rien à la France. » Mais tu dois tout à la France. Parce qu'en vérité, quand tu es passé à Clairefontaine, c'est payé par les impôts des Français. Quand tu roules sur une route nationale, c'est payé par les impôts des gens. C'est ce système collectif qui façonne la réussite ensuite des individus. Et si on a un système collectif qui est, et de solidarité qui est affaibli, alors les réussites individuelles qui peuvent émerger, elles n'existeront plus. Et c'est pour ça que moi, j'ai par exemple une vraie différence de fond. Et c'est une vraie différence entre la droite et la gauche, hein, ce qu'on est en train de dire. On n'en parle pas suffisamment de ces débats. C'est un débat qui est passionnant, mais c'est fondamental. C'est fondamental dans la façon dont on approche le monde et la société.
Alors effectivement, oui. je suis d'accord avec ce que dit Pierre sur la question de la solidarité, parce qu'en fait, ça touche à la solidarité en même temps à la promesse républicaine, parce que la promesse républicaine, c'est justement de garantir la possibilité à tous les enfants de rêver d'à peu près tout pour leur avenir et de pouvoir épouser finalement n'importe quel type d'études et n'importe quel type de carrière. Sauf qu'on se rend compte qu'avec la fracture qu'il existe entre les territoires, et là je vais revenir à mon département, dans le Cantal, vous avez très peu de place pour accéder aux études supérieures, et donc les enfants qui ont des parents qui ont les moyens vont pouvoir aller faire des études à Montpellier, à Clermont-Ferrand, voire à Paris, parce que les parents vont leur payer des études, vont leur payer un appartement. D'autres vont s'endetter et vont commencer leur carrière avec 50 000 euros de dette parce qu'ils auront dû payer tout ça, et d'autres auront accès à des bourses scolaires qui sont insuffisantes pour ces enfants-là. Donc en réalité, oui, il y a déjà une fracture territoriale dans la question de l'accès au territoire, dans l'accès aux services, mais cette fracture, elle est encore plus cruel quand il s'agit de nos enfants qui finalement sont complètement assignés à résidence lorsqu'il s'agit de choisir de leur parcours. Ceci étant, je suis d'accord avec Judith, on doit souligner, et c'est important, que certains ont réussi, que finalement cette promesse républicaine, elle est peut-être réelle pour certains, mais que la fracture, elle est peut-être aussi énorme sur le plan territorial.
Et ce n'est pas qu'une question de moyens, je veux juste ajuster là-dessus, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de connaissance. Quand Judith dit qu'on choisit son métier ou sa formation, je suis désolé, moi, gamin, personne ne m'a parlé de l'existence de sciences politiques ou de HEC ou de Hippocagne, machin. Je ne connaissais pas ça. Donc, j'imagine dans les quartiers populaires aujourd'hui où il y a un nombre de gamins qui ne savent même pas la possibilité qui sont les leurs et qui leur sont proposées. Ils n'imaginent même pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parle de déterminisme, c'est-à-dire qu'on leur dit vous êtes né populaire et vous finirez populaire, vous ne pourrez pas être avocat, vous ne pourrez pas être médecin, vous serez chauffeur de bus, vous serez. Et c'est pas grave peut-être, mais juste, il faut avoir conscience que le déterminisme, c'est aussi ça. C'est aussi ne pas avoir conscience des possibilités qui sont offertes par la société parce qu'on vous renferme dans un statut de catégorie populaire.
Mais c'est un peu caricatural, c'est même carrément caricatural, parce que j'interviens régulièrement dans les cycles, les cursus Sciences Po d'Argenteuil. Je crois pas qu'Argenteuil ce soit un quartier, ce soit des quartiers
qui... Vous vivez dans le Cantal, vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de gamins qui vivent à la campagne qui ne savent même pas que Sciences Po existe.
C'est ce que je suis en train de dire, mais maintenant on a les réseaux sociaux, on a Internet, et en l'occurrence il y a par exemple des cursus Sciences Po.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler donc de ces nouveaux ministres qui sont arrivés au gouvernement. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, premier pas du gouvernement, qu'en pensez-vous ? Alors là aussi, on peut épiloguer, 48% des Français sont satisfaits du gouvernement. Je ne sais pas de quoi ils peuvent être satisfaits, puisqu'on ne sait pas très bien encore ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, près d'un Français sur deux est satisfait par les différentes nominations. On a vu les différentes passations de pouvoir, les entrants, les sortants, ceux qui restent. C'est en gros un tiers du précédent gouvernement qui a été renouvelé. Ceux qui, évidemment, ont suscité le plus de réactions sont Gérald Darmanin et Roselyne Bachelot, ainsi qu'évidemment Éric Dupond-Moretti, dont la première sortie, la première visite a été pour la prison de Fresnes. Un commentaire les uns et les autres sur ce gouvernement, Judith ?
Alors, la satisfaction, c'est peut-être dû aussi au départ, et au départ notamment de Christophe Castaner et de Nicole Belloubet, qui étaient réclamés à corps et à cri, non seulement par les gens dont ils s'occupaient directement dans leur périmètre ministériel, mais par l'ensemble des Français, qui étaient absolument effarés de voir les déclarations, le comportement du ministre, de l'ex-ministre de l'Intérieur et de l'ex-ministre de la Justice. Non, je crois qu'en fait, quand on regarde dans les gardés et dans les sorties, ça correspond à l'indice de satisfaction qui reste, qui est promu même quelqu'un comme Darmanin, qui n'a pas été critiqué et dont les Français ont en général trouvé qu'il était même plutôt bien sorti de ses attributions, et puis surtout Bruno Le Maire qui reste en étant très renforcé. Et quand vous parlez à des patrons de PME ou à des artisans, des chefs d'entreprise, ils trouvent quand même que le maire a très bien géré la crise.
Les sortants, évidemment, oui, Christophe Castaner aurait eu du mal à rester, oui, du même que Sibeth Ndiaye, hein. Pierre Jouvet.
Non, Christophe Castaner, il est sorti. Enfin, que Christophe Castaner soit sorti, je pense qu'on n'a jamais eu ministre de l'Intérieur aussi incompétent que Christophe Castaner. Donc, il était temps qu'il s'en aille. On n'a jamais vu une doctrine du ministère de l'Intérieur telle que la sienne. Non, mais moi, je vais vous dire assez franchement et de manière un peu abrupte, puisque c'est notre dernière émission avant l'été. Ouais. Donc, vous m'expliquerez ça. En fait, je m'en fous, moi, du casting. Je m'en fous totalement. On pourrait mettre qui on veut au gouvernement. Tout ça, c'est de la cosmétique. On met Éric Dupond-Moretti, du coup, tout le monde ne parle que d'Éric Dupond-Moretti, qui est un homme pour qui, moi, j'ai plutôt de la sympathie et même une certaine forme de... Je sais même pas comment le dire. C'est pas de l'admiration, parce que ce serait trop fort, mais en tout cas, c'est un personnage. Voilà, c'est un personnage. Mais au-delà de ça, quelle politique il va pouvoir conduire ? Est-ce que Éric Dupond-Moretti, c'est pas le nouveau Nicolas Hulot quand il va s'apercevoir dans 6 mois qu'il a en fait les mains totalement liées par la décision et par les décisions du président de la République? La majorité de la République En Marche n'a pas changé. La ligne politique du président de la République ne va pas changer. Au contraire. Donc, en fait, on fait un casting. On change des têtes, on coupe la tête d'Édouard Philippe parce qu'on considère qu'il fait trop d'ombre à Emmanuel Macron. On essaye de faire un peu de cosmétique avant l'été pour qu'on ne parle plus de la débâcle phénoménale du parti présidentiel aux élections municipales, qui sont quand même l'élection territoriale qui concerne et qui touche la vie des gens. Et puis, on fait croire qu'il va y avoir 2-3 ajustements et on se reparlera dans cette même émission dans 3 ou 4 mois. On s'apercevra qu'il n'y a eu aucun changement politique. On a mis comme Premier ministre, pour faire croire qu'on allait s'occuper des territoires, un élu local qui est en fait élu local un jour et demi par semaine le reste du temps. Et depuis 25 ans, c'est juste un haut fonctionnaire français qui est passé dans tous les cabinets ministériels et qui a appliqué toute la même politique libérale que celle qu'il va appliquer comme Premier ministre. Donc, tout ça n'a aucun sens. Ce quinquennat, moi, je crois que ce quinquennat est mort. Il n'y a plus d'espoir à tirer, quelles que soient les personnalités politiques qui soient dans ce quinquennat et malgré les qualités peut-être individuelles de certains. Voilà.
Ouais, on a un auditeur qui nous dit: quel est l'intérêt de changer de gouvernement si le président de la République, seul élu par le peuple français, n'a pas changé de conviction profonde, de cap à donner pour la France, de politique générale à ordonner aux ministres nouvellement nommés? Effectivement, pouvoir trouver des ministres plus amènes à diriger leur ministère et la politique voulue. Pierre Jacquemin.
Oui, bah, il a raison. C'est-à-dire que le signal qui aurait pu être envoyé avec un changement, non pas un remaniement, mais un changement de gouvernement avec un nouveau Premier ministre, c'était un changement de cap politique. Je pense que, sur les bancs de la gauche, je pense qu'on n'attendait pas grand-chose de ce remaniement. Sur la droite et dans la Macronie, j'imagine qu'on attendait des signaux quand même. Et je pense que ces signaux n'ont pas été envoyés. Je pense que finalement, le principal risque pour Emmanuel Macron, c'est sa majorité parlementaire. On sent quand même chez les députés de la majorité une certaine circonspection face à la nomination de ce nouveau gouvernement, où les signaux qui auraient dû être envoyés sur la question sociale ou sur la question écologique n'ont pas été présents. Donc, sans doute, l'un des enjeux politiques d'Emmanuel Macron, ça va être dans les nominations de ses futurs secrétaires d'État, de jouer un peu, de savoir qui fait rentrer de ces députés qui pourraient devenir des députés embêtants, enfin des frondeurs embêtants au sein de l'Assemblée. Alors, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron n'a de majorité aujourd'hui que parce qu'il a le groupe du MoDem avec lui. On sait que les relations avec François Bayrou ont été un peu tendues au moment de ces nominations de ce gouvernement. Jacqueline Gourault était annoncée sortante. Il a fallu que François Bayrou appelle Emmanuel Macron pour la faire maintenir dans ce gouvernement. Bon, bref, on sent quand même que dans ce casting qui nous est proposé, franchement, il n'y a pas énormément de renouvellement. Ça manque de souffle, quoi. Il y a presque une usure du pouvoir. Quand vous voyez que Sibeth Ndiaye, qui est quand même une des plus proches d'Emmanuel Macron, n'est plus dans ce gouvernement, ça envoie un signal d'usure aussi politique. Il n'y a plus grand monde. Au final, il n'y a plus que 8 ministres, je crois, issus de la Macronie dans ce gouvernement. Donc je pense que ça manque de souffle. J'aimerais être aussi optimiste que Pierre et considérer que le quinquennat est terminé. J'ai peur, hélas, qu'Emmanuel Macron ait une détermination absolue à vouloir encore réformer, à vouloir faire passer, comme le ministre Jean Castex, le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé, la réforme des retraites. Et ce qui serait navrant, qui serait navrant pour ce gouvernement, ce serait de considérer que l'une des leçons retenues de la crise que l'on vient de traverser, c'est il faut faire la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Il faut qu'ils changent de métier. Quand on ne prend pas la mesure de ce qui se passe en ce moment sur le plan démocratique, sur la question sociale et sur la question climatique, oui, il faut changer de métier.
Il n'a pas dit ça, Jean Castex, hein, sur la réforme des retraites ni sur l'assurance chômage. Sur la réforme des retraites, il l'a coupé en deux. Et il a dit qu'il fallait réouvrir le dialogue sur du long terme. Autant dire pas avant la présidentielle pour la partie régime universel et se consacrer sur le court terme, c'est-à-dire l'équilibre financier, elle est quasiment abandonnée, cette réforme des retraites. Moi, c'est comme ça que j'ai compris son intervention de ce matin. Et par ailleurs, assurance chômage, on va voir pour la mise en œuvre de la réforme. On fait plus déterminé, hein.
Oui, bon, on verra, mais effectivement, il a quand même dit qu'il la ferait, cette réforme des retraites. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris.
Moi, j'ai compris qu'il l'a coupé en deux et qu'il s'occuperait uniquement dans un premier temps, des questions financières et qu'on remettrait l'ouvrage sur le métier, sur l'architecture du système universel, y compris, a-t-il précisé, sur les régimes spéciaux.
On se rend compte, en fait, par rapport à ce dernier échange que vous avez eu et puis les éléments de langage qui sont utilisés la façon dont on commente la constitution de ce gouvernement, qu'il y a une chose évidente, c'est qu'on est une fois de plus dans un gouvernement qui est dans le coup de com' permanent, pour reprendre le titre du livre d'Arnaud Benedetti. Finalement, avait vu très juste, parce que effectivement on est dans un gouvernement qui va nous chercher des paillettes, parce qu'on peut pas lui dire non plus qu'il s'agit de stars médiatiques, mais qui va chercher des paillettes, des personnalités, pour qu'on parle davantage de ces personnalités finalement que du fond et de l'objectif de ce gouvernement. Mais si on doit parler de la forme, ce qu'on peut constater, c'est que il y a de grosses difficultés de ressources humaines à La République En Marche, et que c'est la raison pour laquelle on va plutôt piocher à droite, que la stratégie pour les élections présidentielles d'Emmanuel Macron est toujours la même. Il va manger sur la frange droite. Pourquoi ? Parce que il se rend compte que la social-démocratie de gauche traditionnelle est en train de se radicaliser, d'aller vers le communautarisme, et que finalement, ça sera assez intéressant au niveau des élections présidentielles. Pourquoi ? Parce que finalement, il va extrémiser aussi bien la gauche que la droite et se présenter comme étant le seul interlocuteur possible face à une gauche qui se radicalise et à une droite qui se radicalise. Donc finalement, en termes de stratégie politique, il est plutôt bon. En termes de communication, il montre, en dégageant Sibeth Ndiaye, qu'il va avoir une communication. Donc sa stratégie est plutôt bonne, puisque la droite a démontré lors des dernières élections municipales qu'elle est toujours aussi forte sur le plan local, qu'elle détient un grand nombre de mairies et d'élus. Et finalement, la REM s'est ramassée radicalement sur ces dernières élections. Donc quand on parle de… Alors je veux bien entendre que la gauche et l'écologie sont en train de progresser. Si on regarde en termes de nombre de voix, c'est totalement faux. Les grands vainqueurs des élections municipales, c'est la droite, et dont Emmanuel Macron en a fait une lecture tout à fait juste, et il a reconstitué son gouvernement en fonction de ça.
Paris, Lyon, Marseille ont connu mieux comme victoire municipale quand même pour la droite.
Hein. Le nombre de voix au total sur le pays, et voilà, il faut analyser en termes de voix. En termes de voix, c'est la droite qui a gagné les élections.
On a un auditeur en ligne avec nous, vous réagirez. Ensuite, on a Olivier qui voulait s'exprimer. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Olivier, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Alors moi, je viens de Bordeaux, hein, encore une région où la droite a cartonné. Je dis ça un peu ironiquement, mais enfin quand même, la droite, elle a perdu des gros fiefs. Elle a perdu des gros fiefs, c'est pas si simple que ça. Et en plus, la droite, Emmanuel Macron, la REM, c'est très compliqué, le PS, on sait pas trop qui fait quoi, là. Sur le gouvernement, moi, je suis très, très réservé sur votre sondage, là. En tout cas, c'est pas ce qu'on entend quand on marche dans la rue, quand on discute entre amis, etc., et quand on discute même avec des inconnus.
C'est-à-dire que vous entendez quoi ?
Oh bah, y a un rejet de l'REM qui est de toute façon, alors il a beau faire ce qu'il veut pour les présidentielles, il y a un rejet de l'REM, c'est du jamais vu, jamais un président a été honni comme ça. Donc maintenant on attend le prochain coup de com. Bien sûr que les gens sont contents que les Sibeth, Ndiaye, Castaner, etc. sont partis. Si j'ai bien compris, tout le monde n'est pas content de l'arrivée de Monsieur Darmanin, qui a fait parler de lui quand même aussi avec le cumul qu'il n'était pas censé faire au départ, le rappel, qui est quand même très réactionnaire. Et moi, je suis très choqué qu'on l'ait mis à l'intérieur. Alors, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas mis ministre à la condition féminine, mais enfin, quand même, à l'intérieur, c'est quand même assez... c'est la polémique pour cacher le fond. Je suis assez d'accord avec ce que disait votre intervenant tout à l'heure, qu'on était dans une espèce de com' à tout va pour cacher le fond. Dupond-Moretti, c'est pareil, c'est de la polémique. Roselyne Bachelot, elle avait juré qu'elle serait plus politique. On retrouve toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes dysfonctionnements. Il n'y a rien de neuf. Donc les gens sont contents que cela soit parti. Je ne suis pas sûr qu'ils soient contents que les autres soient arrivés. Hein. Je suis très très réservé sur ce sondage, encore une fois, et on a vu les derniers sondages régulièrement, et notamment pendant les municipales ou les européennes, que les sondages sont pas forcément très fiables, hein, sans parler à qui appartiennent les instituts de sondage, on voit bien qu'ils se plantent tout le temps. Alors soit ils se plantent sciemment, soit ils se plantent pas sciemment, mais je suis réservé là-dessus. Moi, je crois que l'accueil des Français.
Je pense que si les sondages continuent, c'est qu'ils fonctionnent quand même un petit peu. Et si on leur fait confiance, c'est que parfois, ils ne se trompent pas. Je ne peux pas vous laisser dire que les attitudes de sondage sont achetées ou vendues. Non,
sur les dernières élections, c'est le cas pourtant. Hein. Donc, ensuite, si on peut aussi se poser la question des influences et des conflits d'intérêts dans les sondages, de la même façon qu'on se les posait dans le lobby pharmaceutique pendant la Covid. C'est le même fonctionnement, hein. On retrouve les mêmes choses.
Donc vous n'attendez rien de ce nouveau gouvernement ?
Bien sûr que non, on n'est pas dupes. Écoutez, il reste 22 mois, ouais. Vu le temps qu'il reste, ils vont pas changer d'optique, ils reviennent avec la retraite. Ces gens sont déconnectés, hors sol, ils maintiennent leurs intérêts et pas les nôtres, ça c'est certain.
Merci de votre intervention, Olivier. On se retrouve dans un instant après une toute petite pause. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Plusieurs polémiques autour de ces nouveaux ministres, autour de Gérald Darmanin. Des féministes ont manifesté hier et annoncent qu'elles seront partout sur son passage. Est-ce que c'est une nomination risquée ? C'est-à-dire que le parquet a demandé à ce que une plainte pour viol soit réexaminée. Le président de la République, par la voix de son porte-parole, a dit avoir assumé et il est présumé innocent, mais ça fait un peu désordre tout de même, Pierre Jacquemin.
Ça fait désordre, et surtout que l'autre figure qui apparaît dans ce gouvernement, c'est Dupond-Moretti, dont on se souvient aussi des déclarations fracassantes qu'il avait eues au moment de l'affaire MeToo, de Balance ton porc, où lui-même avait expliqué que ça allait trop loin tout ça. Donc le signal envoyé, effectivement, n'est pas très bon. Je lisais ce matin l'interview de Pauline Baron du collectif Nous Toutes dans Libération, où elle disait en gros ce qui nous pose problème, c'est le deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre à la porte du gouvernement quelqu'un qui est accusé d'avoir mis des langoustines dans ses repas à l'hôtel de l'Assé à l'Assemblée nationale, ou même de mettre dehors François Bayrou quand il est accusé d'affaires politico-financières. En revanche, dès qu'il est question de violences faites aux femmes, dès qu'il est question de viol, alors là, il n'y a pas de problème, ils peuvent rester en poste. Donc, je comprends cette critique qui est faite de la part des féministes dans ce qu'elles disent, justement, de ce maintien au pouvoir, voire de cette ascension au pouvoir d'une personne qui est accusée de viol. Certes, encore une fois, il y a la présomption d'innocence, mais ce qu'elles touchent du doigt, et elles ont raison, c'est le deux poids deux mesures. Pour les violences faites aux femmes, on peut bénéficier de la présomption d'innocence et vous pouvez rester ministre, voire vous pouvez être promu ministre de l'Intérieur. En revanche, sur les affaires politico-financières, alors là, sur les affaires de sobriété aussi parfois, là, alors même que François de Rugy n'était même pas inculpé sous le coup d'une procédure judiciaire, il a été appelé à être démissionnaire. Donc du coup, c'est ça qui est pointé du doigt et je le comprends parfaitement parce que le signal envoyé n'est pas bon. Et ce que disait aussi Pauline Baron, que je trouve très juste dans son interview, c'est que on a déjà du mal à faire entendre, ou en tout cas, certaines femmes ont déjà du mal à les faire entendre porter leur voix dans les commissariats pour porter plainte contre des agressions sexuelles. Quel message on envoie quand on nomme premier flic de France quelqu'un qui est accusé, certes avec la présomption d'innocence, mais qui est accusé de viol ? Je pense que le signal est gravissime, effectivement.
Qui veut Judith?
Laurence
Taillade, allez-y.
Je trouve ça effectivement, il y a toujours la présomption d'innocence, mais je trouve qu'il y a beaucoup de présumés innocents dans l'entourage d'Emmanuel Macron.
Parce que c'est vrai.
On a Richard Ferrand qui est président de l'Assemblée nationale, on a eu l'affaire Benalla où on a cherché à le couvrir, ensuite on a eu les affaires Salles, les affaires Nissen, on a M. Kohler qui a bénéficié d'un soutien très actif du président de la République, et Marlène Schiappa quand même, qui à l'époque était déléguée à la condition féminine, à l'égalité femmes-hommes, qui avait apporté son soutien total à Monsieur Darmanin, de connaître le résultat de l'enquête. Donc moi, je trouve ça assez inquiétant parce que effectivement, le message envoyé aux femmes qui sont victimes de violences, qui sont victimes de viols, qui la plupart du temps sont très mal accueillies dans les commissariats et là, rien n'a changé, qui ont des difficultés à témoigner de ce qui leur arrive, dans la plupart du temps d'ailleurs, elles ne le font pas parce qu'on les en dissuade en leur disant que de toute façon, ça n'aboutira pas à leur plainte. Effectivement, le message est plutôt néfaste et donc je trouve ça relativement inquiétant parce que dès lors que ce gouvernement avait promis la transparence, l'éthique, la morale, puisque c'était vraiment la promesse d'Emmanuel Macron, eh bien, je pense que M. Darmanin de lui-même n'aurait pas dû accepter ce genre de mission, aurait dû se mettre sous la responsabilité de la justice et attendre que la justice passe pour ensuite peut-être reprendre des fonctions, parce que tel qu'il est positionné là aujourd'hui, il va être très difficile aussi pour lui de se défendre. Il faut voir aussi cette partie, cet aspect des choses. Pour pouvoir se défendre, il faut avoir les mains libres, et pour pouvoir avoir les mains libres, je trouve que c'est très difficile d'être d'un côté ministre de l'Intérieur et de l'autre côté poursuivi sur une enquête de ce type-là.
Alors, Judith ?
Effectivement, c'est pas très bon du point de vue image. Les femmes qui se revendiquent du féminisme et qui manifestaient contre Gérald Darmanin, elles étaient combien? Même pas 20, je crois, ou 22.
Oui.
Donc il faut aussi rendre la juste proportion des choses. C'est très compliqué parce que on peut pas dire, à mon avis, il y a la présomption d'innocence, oui, mais... Où il y a la présomption d'innocence,
Judith,
il n'y a pas.
Judith, François de Rugy a démissionné pour des affaires de sobriété,
oui,
de l'Assemblée nationale.
Oui,
pour les violences faites aux femmes et les viols, alors là, il n'y a pas de problème, on peut rester.
C'est
deux poids deux mesures, c'est ça qui est quand même problématique, en fait.
Bah, à ce moment-là, que tous les gens qui sont accusés de quoi que ce soit restent et qu'on applique la présomption d'innocence à tout le monde. Moi, c'est plutôt ça qui me conviendrait. S'il y a présomption d'innocence, elle s'applique à tout le monde. Voilà.
Mais là, en l'occurrence, ça ne s'applique pas à tout le monde.
Non.
Non, là, en l'occurrence, elle ne s'applique pas à tout le monde. Et en l'occurrence, l'exemplarité qui était menée et portée tel un étendard par le président de la République dans sa campagne présidentielle est quand même très fortement abîmée. Laurence a rappelé les différents cas. Et je crois, Laurence, malheureusement, que vous en avez encore oublié tellement que la liste est longue. Mais c'est extrêmement, extrêmement choquant pour l'image de la politique en général. Vous vous rendez compte ce que disent les citoyens qui regardent un peu de loin le débat politique? Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Hein. Nous, on est des passionnés de l'actualité, des passionnés de la politique. Quand vous êtes un citoyen qui met un peu la télé, qui regarde un petit peu ce qui se passe et qui entend toutes ces affaires en permanence, qui touchent de près ou de loin des femmes ou des hommes politiques, et d'autant plus sur des questions de violences faites aux femmes. Mais les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de dingue? Dans votre vie de tous les jours, dans une vie normale de Français lambda, vous connaissez beaucoup de gens dans votre entourage, vous, qui sont mis en cause dans des affaires judiciaires? Vous connaissez beaucoup de gens, vous, dans votre entourage, qui ont été mis en examen? Et pourquoi alors est-ce qu'il y a plus de mise en examen dans la vie politique française que dans la vie des citoyens normaux? Mais les gens se disent, tout ça, c'est une caste. Tout ça, ce sont des copains qui se protègent, qui s'entretiennent, qui se mettent à des postes les uns et les autres pour éviter d'être condamnés. Et c'est le deux poids, deux mesures qui ensuite fracasse tout ça dans la crédibilité même du monde politique et de la vie publique. Alors oui, on peut dire présomption d'innocence et on peut dire il faut appliquer la présomption d'innocence. Mais moi, je suis pour qu'on applique la présomption d'innocence aux citoyennes et aux citoyens. Mais quand on est touché, quand on est un personnage public de premier plan, tel qu'un ministre de l'Intérieur, on ne doit pas rester en fonction et on ne doit pas et on ne peut pas rester en poste quand il y a une épée Damoclès qui est aussi forte au-dessus de sa tête. Le signal politique envoyé est trop violent. Le signal politique pour ces femmes qui sont victimes de viols, de violences intrafamiliales, comme on l'a vécu pendant le confinement ces derniers mois. Mais vous vous rendez compte, toutes ces femmes à qui on dit « allez porter plainte, il faut, vous allez être défendues, vous allez être écoutées » et on leur dit que potentiellement, et même si ce n'est pas vrai, attention, même si Gérald Darmanin n'a peut-être rien fait, on dit potentiellement celui qui est considéré comme le premier flic de Florence, eh ben, il a peut-être un coup d'accusation derrière lui. C'est pas possible. C'est pas possible pour la crédibilité de l'action politique. Et quand François de Rugy démissionne pour ces histoires de homard, même s'il n'a pas d'enquête contre lui pour l'instant, je trouve que c'est très bien, que c'est nécessaire pour la crédibilité, pour notre crédibilité à tous en tant qu'élu et en tant que responsable politique. On doit être exemplaire encore plus que tout le monde.
Judith Van Troop.
Oui, la démission de François de Rugy ne doit pas être comparée. On n'attend pas de décision judiciaire. L'entorse à ce qu'on attend en termes de comportement, de morale publique d'un responsable élu du niveau du président de l'Assemblée, elle était commise, il n'y avait aucun doute. Il y avait les photos et lui-même le disait. Donc on ne peut pas comparer ça.
Mais finalement, il les a payés, c'est Omar. Il l'a reconnu lui-même. Donc après tout, on pourrait très bien se dire, il a payé, c'est Omar, il fait ce qu'il veut. Pourquoi
juste une question politique. Politiquement.
Mais pardon, la question juridique, c'est est-ce qu'on considère que tout plaignant ou toute plaignante a raison et que le présumé coupable l'est vraiment? Est-ce qu'on veut un système judiciaire comme ça?
Quand on est un homme politique de premier plan, je pense, et ça c'est un comportement à revoir dans la façon dont on gère le pays, qu'on devrait avoir une possibilité et une disposition de se mettre en retrait, je ne dis pas forcément de démissionner, de se mettre en retrait, qu'il y ait une enquête qui soit faite, qu'ensuite il y ait un jugement qui puisse être rendu et qu'après ça, on puisse retrouver son poste et revenir à sa place. Parce que sinon, c'est toute la classe politique qui est entachée et qui tend les Français vers de plus en plus d'abstention, de plus en plus de votes extrêmes et qui considère que tous les hommes et toutes les femmes politiques sont des pourris. Et ça, c'est plus possible, tout simplement plus possible.
Par ailleurs, il faut se rappeler aussi qu'Emmanuel Macron avait fait la question des violences faites aux femmes de la grande cause du quinquennat. Il faut juste se rappeler que ce gouvernement n'a toujours pas un grand ministère de plein exercice de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes tel que Marlène Schiappa pouvait imaginer un jour l'obtenir. C'est aussi un signal qui est envoyé aux féministes. Mauvais.
Eh bien, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, et de revenir sur tous ces sujets. Merci à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous. À demain, 10h, pour d'autres infos.